Pour ceux qui parmi vous ont l'usage du lectionnaire de la liturgie catholique, ils ont peut-être vu que la lecture de ce jour, la lecture de l'Évangile, était tirée de Saint Luc. On voit Jésus qui se retire seul et l'écrivain biblique, le rédacteur de l'Évangile, nous dit quelque part. Et il y a dans ce mystère d'un espace-temps indéterminé, le lieu même de la spiritualité qui a beaucoup frappé d'ailleurs le père de Bérulle, fondateur de l'oratoire, qui voyait dans ce quelque part la possibilité peut-être de rejoindre chaque homme en chaque point de l'histoire, en chaque point du monde. Et on voit Jésus en prière qui fascine tant ses disciples que ceux-ci viennent le voir après avoir respecté son silence et cette proximité mystérieuse avec celui qu'il appelle son Père, cette proximité proprement vertigineuse et pour nous tout à fait fascinante et dans laquelle nous aimerions entrer chaque jour davantage. Il lui demande comment prier. Et Jésus répond, quand vous priez, dites notre Père. Et il révèle ce mystère de paternité de Dieu que nous aurions peut-être tendance quelquefois à galvauder et dont l'évidence n'est pas précisément le fait de toutes les religions monothéistes. Parmi les 99 noms avec lesquels l'islam essaie de rendre compte de la grandeur de Dieu, il n'y a jamais le nom de Père, car obéissant peut-être à une logique tout orientale, qui dit père dit fils. Et vous savez que nos amis musulmans seraient gênés de prêter ou de donner un fils à ce Dieu dont ils tiennent à maintenir la transcendance absolue. Donc ce nom de père, ne le galvaudons pas, il fait partie de notre patrimoine spirituel. Et s'il est vrai que déjà dans la tradition juive, dans le mystère de ce Dieu d'Israël qui se révèle à son peuple, à un peuple qu'il libère, il y a déjà un mystère de paternité, mais c'est Jésus qui effectivement verra dans l'intimité même de Dieu ce mystère d'engendrement. Et donc, j'ai trouvé que c'était une chance pour nous, et peut-être un clin d'œil de la Providence, que de lancer les voiles ce soir, de hisser les voiles de ce groupe écuménique avec ce Notre Père. Car effectivement, comme vous avez pu le voir, nous avons souhaité inscrire le thème de l'année sous ce titre peut-être un peu sibyllin, Père, Mère, Fils et Fille. Mystère d'enfantement, mystère d'engendrement, nous pouvons nous reconnaître dans certains de ces mots. Nous sommes tous au moins fils et filles, et nous vous invitons à une traversée de la Bible, car dès le début, la Bible se montre très originale. Vous savez que les textes bibliques apparaissent dans un univers proche-oriental qui est saturé de culte à la fécondité. On exalte la fécondité, on exalte la multiplicité, les familles nombreuses dans cette atmosphère patriarcale de l'Antiquité proche-orientale. Et la Bible tisse un chemin qui est tout à fait original et fait jaillir la vie là où on ne l'attend pas. Les deux premières matriarches, Sarah et Rebecca, sont dites stériles, et c'est là où même la vie n'est pas attendue que le Seigneur la donne et la fait jaillir en surabondance. Donc laissons-nous peut-être cette année surprendre par ces textes bibliques qui sont bien sûr versés au patrimoine commun que nous connaissons quelquefois par cœur, mais laissons-nous surprendre par la profonde originalité qu'ils introduisent dans ce monde antique, archaïque du Proche-Orient, qui effectivement paraît à la fois en consonance et aussi en divergence avec ce que la théologie biblique nous révèle de cet engendrement auquel nous sommes invités. Cet engendrement qui est celui du Père, qui ne cesse de nous enfanter à la vie. Nous ne sommes pas nés seulement à un point T du temps. Nous naissons sans cesse, nous renaissons sans cesse. Et c'est précisément en Dieu même que nous trouvons la source de ce mystère d'enfantement et de fécondité spirituelle auquel tous et toutes nous sommes invités et participants de fait déjà par nos relations humaines. Nous ne le mesurons pas toujours, mais nous sommes toujours en posture d'engendrer les autres, de les faire revivre, de les remettre debout tels que Dieu les a créés, tels que Dieu les veut.
Oui, donc on a choisi ce thème pour vous. Et c'est vrai que dans notre lecture de la Bible, finalement, peut-être faut-il le préciser, c'est plutôt une lecture spirituelle que nous cherchons, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord de l'exégèse. Vous savez, l'exégèse, c'est quelque chose qui est sans doute fondamental, mais en fait, on cherche les sources, les dates de rédaction, peut-être la composition des textes, des choses comme ça. Nous ne jouerons ce jeu-là, finalement, que si ça apporte du sens, pas simplement pour la simple connaissance de ce texte biblique, mais vraiment on cherche quelque chose qui puisse, comme vient de le dire Jérôme, quelque chose qui nous permette de nous ouvrir à cette source de vie qu'est Dieu, à nous laisser enfanter par lui. Et donc on cherche dans le texte en quoi ça nous concerne. Et ça me fait penser à un passage que j'aime beaucoup en fait dans les psaumes. Je ne sais plus c'est lequel, peut-être dans les 80, 85. Voici le rouleau du livre écrit pour toi. Voilà, donc c'est vraiment... C'est, la Bible est un livre qui est écrit pour nous. Et donc, nous sommes... Ce texte parle de nous, finalement. C'est-à-dire que Noé, c'est nous, dans un certain sens. Les enfants de Noé, c'est nous, dans un certain sens aussi. Nous sommes à la fois Noé, sa femme, ses trois fils et leurs trois femmes. C'est ce que dit l'apôtre Pierre hein, dans le commentaire, l'exégèse qu'il donne du déluge. Il dit voilà, ce passage de Noé à travers la mer, il y avait exactement 8 personnes qui ont été sauvées. 8, et donc il insiste sur ce chiffre 8. Et il dit, c'est une figure du baptême. Donc nous sommes finalement cette figure de Noé, sa femme, ses trois fils et les trois filles, les trois belles filles. Nous sommes cette famille de 8 personnes exactement qui est comme sauvée à travers le baptême. Donc vous voyez, on peut être à différents endroits, à différentes façons dans ce texte, mais de toute façon, il parle de nous. Et comme bien souvent dans la Bible, le texte n'a pas un seul sens. Il y a un jeu de sens comme ça. Il y a un jeu de sens, mais qui fait partie du sens littéral. Il y a un sens moral, comme dans, je dirais, n'importe quel film. Il nous dit, voilà, est-ce que j'ai envie de faire comme ce que dit le texte? Il y a une connaissance de Dieu, de notre Dieu, que nous pouvons acquérir au cours de la lecture de ce témoignage que nous donnent les anciens et qu'ils ont voulu mettre par écrit. Mais plus profondément, nous sommes, c'est de nous que parle ce texte. C'est nous, Adam et Ève, c'est nous, Noé, ses enfants, c'est nous, cette humanité dont on parle là, et même, je dirais, nous sommes quasiment la planète entière. Quand il y a marqué, voilà, Dieu sauve les animaux, cela veut dire que Dieu s'intéresse et bénit aussi l'animal qui est en nous. Donc, vous voyez, nous sommes, dans de multiples façons, sous de multiples angles, nous sommes profondément concernés par ce texte. Mais ce n'est pas étonnant, parce que ce texte est une prédication qui a été écrite pour nous, voilà, pour nous donner les promesses de Dieu et nous appeler à nous ouvrir à ces promesses et à nous convertir, comme dirait Jean-Baptiste, peut-être. Alors peut-être faut-il commencer par lire ce texte, oui. Je ne sais pas. Comme
est-ce
ça,
que quelqu'un, est-ce que quelqu'un souhaite lire le texte, ce chapitre 9, et on pourrait même lire la conclusion du chapitre 8,
oui, oui, oui.
Qui est le sacrifice de Noé.
Il y a un volontaire, souvent c'est...
Valérie ou Chantal ou...
Oui. On a... Ah bah c'est...
commence ici. Voilà.
La conclusion.
Oui, et puis tout, jusqu'à ce que je t'arrête. Jusqu'au chapitre 10, c'est-à-dire jusque ici. Jusque là. De là à là. Voilà. Donc, fin du chapitre 8 de la Genèse.
Un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même : Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit : Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme par l'homme verra son sang versé. Car, à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils : Je vais établir mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref. Tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages, j'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé : C'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. L'autre côté, qui est sur la terre. Je continue là. De Noé à Abraham. Oui, Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les trois fils de Noé, c'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé, qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria : Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. Puis il dit : Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'ils demeurent dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur serviteur. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut.
Pour celles et ceux qui, depuis trois dimanches, ont aussi eu l'occasion de méditer sur l'image biblique de la vigne, avec les textes d'Isaïe et les paraboles de Jésus, vous voyez aussi que nous sommes ici dans un texte qui est presque prototype. Noé fut le premier agriculteur, il planta une vigne et il en but le vin. Le symbole du vin qui acquerra une promotion extrêmement prestigieuse dans la Nouvelle Alliance, puisqu'il deviendra le sang même du Christ, le Christ subvertissant le tabou sacré auquel le sang est normalement voué dans le judaïsme. On ne peut qu'être ému, effectivement, de lire ce texte. Alors, vous voyez, ce chapitre 9, nous avons à la fois l'alliance avec Noé, l'alliance noachique, à vrai dire la première alliance, une alliance avant celle de Moïse, avant celle d'Abraham, au chapitre 17. Nous avons ici une alliance à la fois perpétuelle, c'est-à-dire qui n'est pas résiliée, et universelle. Vous le voyez que cette alliance ne s'adresse pas au peuple de l'élection, c'est une alliance qui s'adresse non seulement à tout homme et à toute femme, c'est une alliance avec tout homme et toute femme à travers le temps, à travers l'histoire et à travers l'espace, mais aussi avec toute chair. Le mot hébreu « bassar », c'est la chair animée, dotée d'un nefesh, c'est-à-dire d'une réalité vitale, du souffle vital. Et nous verrons tout à l'heure, effectivement, l'importance du sang, précisément, comme lieu où ce souffle vital trouve son siège, trouve son ancrage existentiel. Donc, bien sûr, cette première alliance, d'aucuns peuvent y voir peut-être une deuxième alliance, mais à vrai dire, l'alliance adamique n'est pas véritablement une alliance. Ici, nous avons bien deux partenaires, Noé et le Seigneur, une alliance d'ailleurs unilatérale. C'est le Seigneur qui prend l'initiative, comme nous allons le revoir, qui prend l'initiative et qui est la source de la promesse de vie et de la promesse de ne plus exterminer son peuple. Donc vous voyez le plan de ce chapitre 9, l'alliance noachique, c'est-à-dire l'alliance avec Noé. Noachique, ça veut dire avec Noé. Noah, ça veut dire le repos en hébreu. Et ensuite, l'épisode, souvent peut-être passé sous silence, de l'ivresse de Noé et de l'impudeur de Cam, le troisième fils. Et vous savez peut-être, nous y reviendrons, quelle lecture idéologique on a pu projeter sur ce texte, puisqu'on a vu dans ce texte la justification de l'asservissement de Cam et de toutes les populations, toutes les peuplades, toutes les ethnies nées de Cam, et Cam représentant souvent l'Afrique. Donc vous voyez un petit peu quelle lecture déviante on peut faire de ce texte. Voilà, alors Janine nous a bien lu l'ensemble du chapitre 9. On avait simplement mis la fin du chapitre 8 parce qu'on voit Noé, vous le voyez, c'est la conclusion du chapitre 8, qui offre un sacrifice. Alors, vous le savez peut-être, le récit du déluge trouve des équivalents dans la littérature proche-orientale de l'époque, bien antérieure d'ailleurs. Il y a un texte magnifique, la 12e des tablettes de l'épopée de Gilgamesh, où on voit Gilgamesh qui sort du radeau, de l'arche, et qui offre un sacrifice, et on nous dit que tous les dieux, comme des mouches, se ruent au-dessus de la bonne odeur du sacrifice. Donc vous voyez quand même ici le progrès en termes de raffinement monothéiste, le progrès que ce texte propose. Dieu sent la bonne odeur du sacrifice, il descend à la rencontre de Noé et il se pose en partenaire. tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Alors, le déluge, vous le savez, était intervenu à cause de la perversité du cœur des hommes et des femmes. Et c'est un texte que vous connaissez bien, mais il s'agit bien ici, et je vais peut-être laisser Marc en reparler, à propos de ces paroles de bénédiction, quand Dieu bénit Noé et ses filles, il s'agit d'une sorte de recréation. Dieu, finalement, s'est résolu à jouer le jeu de la violence, comme les hommes et les femmes, et il a détruit sa création. Et on voit bien une tension dans le texte, si vous connaissez, si vous vous remémorez l'épisode du déluge, avec tout son symbolisme, les 40 jours de déluge, les 7 jours où l'arche est livrée à elle-même comme une sorte de monde en miniature, une semaine donc qui vient d'une certaine manière répondre à la semaine de la création, une sorte de contre-semaine de décréation où Dieu décrée son monde, et ensuite 365 jours d'inondation, donc une année pendant laquelle la nouvelle création au sein de l'arche germe. Alors l'arche, qu'est-ce que ça veut dire? L'arche, c'est un coffre, c'est le même mot en hébreu qui désigne le bateau de Noé et l'arche de l'Alliance, hein. Il s'agit bien d'un coffre dont les mensurations, les mesures sont données. D'ailleurs, c'est à peu près celle de l'église Saint-Eustache, si vous voulez vous faire une idée. Les mesures de l'arche de Noé en coudées correspondent à peu près à la moitié d'un paquebot, d'un grand paquebot transatlantique. Ça fait donc un objet assez conséquent, mais qui en fait ne ressemble pas tellement à un bateau, mais plutôt à un temple. Et nous aurons peut-être à nous interroger sur le sens de cette arche. Donc, Noé sort de l'arche après le test de la colombe. D'ailleurs, la colombe qui ne revient pas tout de suite, qui revient la deuxième fois, ce qui peut-être nous incite à entrer plus profondément dans le symbole de la colombe dont nous faisons très vite le symbole de la paix, mais la paix est peut-être quelque chose qui ne s'obtient pas non plus du premier coup, voilà, qui doit être remis à la confiance et à l'espérance.
Oui, donc voilà Noé qui fait un sacrifice. Alors moi je trouve assez joli, c'est que bon, enfin, d'abord, moi, je ne crois pas du tout que Dieu se soit résolu à la violence de tuer des gens. Mais ça dépend comment on lit ce texte. On peut le lire comme ça, oui. Moi, je crois que ce texte du déluge, il nous invite à changer de théologie, à partir de l'idée d'un Dieu qui punit le méchant, et puis avec cette conversion de Dieu, finalement, qui est violent au début, et puis qui dit, ben, finalement, Dieu se convertit au milieu du texte et devient le Dieu que nous allons voir dans ce chapitre 9, un Dieu qui bénit même unilatéralement, qui promet, qui dit « mais j'ai un million de plus de raisons de soutenir, de bénir cette humanité, même si elle est faible, fait plein de bêtises, j'ai un million de plus de raisons de la bénir, de l'éveiller, de l'entourer, plutôt que de la détruire. » Eh bien, ce Dieu qui change au cours de ce récit de déluge, pour devenir le Dieu qu'on a ici, qui est si évangélique, j'allais dire, eh bien, ça nous invite à convertir aussi notre théologie, de passer du Dieu méchant, du Dieu vengeur, du Dieu finalement juste, dans un sens équitable. Le coupable mérite une peine et une souffrance, et le juste mérite d'être récompensé et d'être béni. Mais Dieu n'est pas équitable en ce sens-là. Il est juste au sens de l'amour, donc il aime chacun de ses enfants, même si l'enfant est un peu nul. Eh bien, s'il est un peu nul, ça demande des soins supplémentaires, ça ne demande pas une punition. C'est ce que nous allons voir ici. Et alors, ça commence par, à la fin du chapitre 8, par Noé qui rend grâce, finalement. Mais cette action de grâce, moi, je trouve que c'est de la pure gratitude. Et je dirais qu'il a bien compris cette leçon, car il n'est plus dans il est plus dans le domaine du marchandage. Il a déjà tout reçu, donc son sacrifice, le culte qu'il rend ici, il élève un autel, on ne lui a même pas demandé en fait. Un autel pour le Seigneur, pour le Seigneur. Eh bien, c'est la pure gratitude, c'est la reconnaissance, au double sens du terme. Il reconnaît que Dieu est Dieu et il est reconnaissant pour ce que Dieu lui a donné. Donc ça, c'est, je trouve, voilà, on est bien dans une autre logique que celle du donnant-donnant. On est dans la gratitude pure, voilà. Et au début du chapitre 9, aussi finalement, il y a marqué « Dieu bénit Noé, ses fils ». Bon, en français comme en latin, « bénir », ça veut dire « dire du bien », quoi. Mais dans l'hébreu, c'est bien plus que « dire du bien ». En fait, Dieu ne dit pas tellement de bien de Noé et de ses fils, il vient d'en dire du mal, en fait. Il dit « l'humanité, le cœur de l'homme est porté vers le mal ». C'est comme ça, dès sa naissance, dès sa jeunesse. Ben oui, c'est normal, je veux dire, le bébé, on est centré sur nous-mêmes et égoïste. Il faut toute une vie, comme disait Jérôme, pour s'ouvrir à Dieu et à l'autre. Donc on est comme ça, voilà, et on est toujours un peu pécheur, voilà, égoïste. Oui, bien sûr, nous le sommes tous. Donc Dieu vient de dire, oui, je bénirai l'homme même s'il est mauvais. Donc la bénédiction, c'est pas simplement dire du bien. La bénédiction en hébreu, c'est créer un lien fort, finalement, un lien de vie entre une personne et une autre. D'ailleurs, pour s'en rappeler, c'est facile parce qu'on connaît hein, la bénédiction, on connaît le mot en français, la baraka, vous savez. Ou alors, non, c'est pas très bien le bon exemple parce que la baraka, c'est un peu la chance, donc en arabe, ça a changé de sens par rapport à l'hébreu. C'est plutôt le chameau qui baraque, vous savez. Et bien, c'est le même mot que la bénédiction. C'est-à-dire le chameau, enfin, il arrive à l'étape, il peut souffler, il peut s'agenouiller et se reposer. Et puis, barak, en fait, c'est le mot genou, c'est le même mot que le genou, c'est-à-dire c'est une articulation. Et depuis toujours, hein, les lecteurs en hébreu disent, voilà, la bénédiction, c'est ça, c'est créer une articulation entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Chacun a une certaine liberté, mais on reste en articulation avec l'autre. Et cette souplesse de l'articulation permet enfin le repos, c'est-à-dire un état où on a atteint son but, on a accompli la tâche et on est bien, quoi. Voilà. Avant de repartir, peut-être, mais voilà, c'est un peu ça. Donc la bénédiction, c'est ce que va faire finalement Dieu dans ce chapitre, c'est créer une alliance, établir un amour, établir un lien en même temps de liberté, de souplesse, mais vraiment un lien de solidarité et d'amour. Et donc, en fait, la bénédiction, elle a besoin de s'établir dans les deux sens. Dieu bénit l'homme, et c'est bien quand l'homme peut bénir Dieu. C'est pas parce que Dieu serait inférieur et qu'il aurait besoin de la bénédiction de l'homme, mais c'est que s'il veut avoir cette articulation, cette alliance, il est prêt à bénir unilatéralement, on va le voir dans ce texte, mais pour que ça marche bien, pour que l'articulation marche, il faut aussi que l'homme réponde à cette bénédiction.
Oui, et cette bénédiction s'adresse encore une fois à toute chair, à tout bassin, comme on dit l'hébreu, c'est-à-dire également au règne animal. Elle s'étend à tout le règne animal, aux animaux qui sortent de l'arche, et qui pourtant, c'est peut-être paradoxal, vont être maintenant l'objet de la nourriture de l'homme. Mais cette alliance noachique, effectivement, scellée par l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui est devenu un symbole dans beaucoup de mouvements écologistes. Hein. Et je me souviens qu'un certain nombre de mouvements un peu hippies des années 70 se réclamaient aussi de l'arc-en-ciel qui était un symbole, effectivement, qui vient de là, qui est, par ses couleurs, par son appartenance aux réalités météorologiques, le lien entre Dieu et le monde, ce monde créé par Dieu qui est bon et dont la bénédiction de Dieu veut s'étendre jusqu'à tout ce règne animal et donc animé. Et donc, paradoxalement, comme je le disais, Dieu propose un nouveau régime à l'homme. L'homme, avant le déluge, était herbivore, il était végétarien, on l'oublie souvent, mais dans le mythe des 10 premiers chapitres de la Genèse, dans cette histoire où les écrivains bibliques du 6e, du 5e siècle avant notre ère essaient non pas de raconter ce qui s'est passé à l'origine, parce qu'ils n'y étaient pas, et d'autres mythologies s'y étaient risquées, mais ces écrivains cherchent à interpréter le sens des réalités fondamentales, la mort, la vie, la sexualité, l'envie, la perversité du cœur de l'homme, la réalité de la jalousie, les réalités qui sont celles de la vie de toute population plongée dans un quotidien ambigu qu'il s'agit d'interpréter. Donc les textes bibliques sont là pour ça. Et dans les premiers textes, effectivement, dans cette humanité pourtant d'après la chute, d'après la chute de nos premiers parents, cette humanité est végétarienne. Et voilà que Dieu propose un régime carné, une nouvelle diète. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante. Vous voyez, nous sommes au verset 3 du chapitre 9. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Alors pourquoi cette nouvelle permission, qui est aussitôt d'ailleurs nuancée par la loi fondamentale de la cachéroute, hein, de la nourriture cachère, des rites d'abattage, puisque c'est là le texte finalement canonique qui permet de comprendre ce rite de nos frères juifs. Alors pourquoi ce régime carné ? Je pense qu'on peut y voir une sorte de compromis avec la nature humaine telle qu'elle est et avec cette violence que Dieu a voulu extirper. Et comme disait Marc, Dieu lui-même s'est laissé convertir. C'est pour ça que dans le chapitre 8, on voit bien qu'au moment où il fomente le châtiment, il n'a de cesse de dire « Mais Noé, toi, tu as marché selon mes voies, tu entreras dans l'arche. » Il ne cesse de préparer le salut dans le temps même où il ourdit le châtiment, ce qui peut nous paraître un petit peu paradoxal. Eh bien, après le déluge, Dieu, d'une certaine manière, comprend l'homme et comprend cette logique qu'il y a dans le désir de l'homme. Les besoins, vous savez, une fois qu'ils sont assouvis, se taisent. La faim, la soif, un certain nombre de besoins de l'humanité, par leur propre assouvissement, par leur propre extinction, trouvent leurs limites. Mais il y a dans l'homme un désir profond, qui est le désir même de l'homme et qui, par sa toute-puissance, est violent. Et Dieu reconnaît cette violence qu'on retrouvera dans les psaumes. Vous savez, dans les psaumes, on s'étonne parfois de voir des versets qui nous chagrinent et qu'il faut absolument maintenir. Il ne faut jamais mutiler les psaumes parce que cette violence, nous la reconnaissons en nous-mêmes. Et Dieu la reconnaît dans l'homme. Et donc, il reconnaît que la violence existe et ce règne animal qu'il bénit par ailleurs, eh bien, il sait que ce règne animal sera nourriture pour l'homme au prix d'une violence, mais d'une violence qui sera ritualisée. Et pendant très longtemps, la nourriture carnée dont on se nourrissait devait être abattue au temple. Il y avait un acte religieux dans le fait de manger de la viande, et c'est toujours le cas. Alors, une sorte de compromis pour canaliser la violence sans l'abolir, parce qu'au fond la violence est une donnée de fait, c'est une donnée anthropologique que Dieu reconnaît. Il cherche à en faire au fond une sorte de lieu de vie, la violence comme lieu de vie. Je crois que au lieu de vouloir gentiment la taire ou l'extirper, Dieu reconnaît que la violence, le désir dans l'homme, le désir qui d'une certaine manière n'est pas domesticable, n'est pas totalement canalisable, ce désir profond est une donnée humaine qui peut être l'instrument l'instrument de l'épanouissement de l'homme et non pas l'instrument infini de la haine qui se répète et qui se reproduit et qui, d'engrenage en engrenage, finissait par, d'une certaine manière, appeler le châtiment. Non, ici, c'est un nouveau rapport à la violence et aussi, alors bien sûr, cette prescription sur le sang. Le sang, pour un juif, je le laissais entendre tout à l'heure, ne peut pas être consommé. Le sang, c'est la vie. C'est dans le sang qu'il y a précisément le nefesh, c'est-à-dire presque l'image du souffle de Dieu, presque l'image de Dieu dans l'homme, c'est-à-dire ce qui lui donne la vie, se trouve pour un juif dans le sang. Et plus que la vie, c'est même l'identité de la personne. L'identité de la personne. Ce qui explique que la nourriture doit être consommée, étouffée, sans le sang, mais ce qui explique aussi, bien sûr, l'interdit du verset 6 sur le meurtre. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme, verra son sang versé. Car effectivement, dans l'épanchement du sang, dans l'écoulement du sang, dans l'effusion du sang, c'est l'identité de l'homme lui-même qui est atteinte. La violence de sang est attentatoire à la trace de Dieu dans l'homme.
Ah oui, c'est intéressant cette histoire de nourriture, mais il y a plusieurs éléments en fait qui sont donnés. C'est-à-dire que la bénédiction, elle est donnée, c'est pas juste justement dire du bien, c'est proposer un fonctionnement. Et dans le fonctionnement, donc il y a plusieurs choses qui sont proposées. La nourriture est un point fondamental qui est peut-être le plus développé. Oui, nous n'existons que si nous nourrissons. Donc c'est quand même là, déjà, je crois, le devoir de se nourrir est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut nourrir son intelligence, nourrir sa capacité à être en relation avec les autres, nourrir sa foi, sinon on meurt. Quoi, voilà. Alors, c'est pas la seule obligation. Il y a aussi d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Donc il y a l'idée d'une fécondité. Donc avec notre thème de père, mère, fils et fille, oui, nous avons une bénédiction, pas simplement pour être comme ça, comme une icône collée sur un mur, finalement, qui serait magnifique, mais qui serait inerte. Nous avons une mission à accomplir. Et c'est vrai que l'idée qu'une bénédiction aille avec une mission, une vocation, une sainteté même, car quand on dit « vous êtes saint » ou « Dieu vous sanctifie » dans la Bible, ce n'est pas une qualité morale ou un label, si vous voulez, comme le label rouge donné au plus beau veau. Mais c'est la sainteté, c'est-à-dire que Dieu compte sur nous pour une mission. Donc c'est Dieu qui sanctifie. Nous sommes saints, nous sommes mis à part pour, là où nous le sommes, comme nous le pouvons, avoir une fécondité. Ça peut être une fécondité en ayant des enfants, c'est un projet effectivement magnifique, complexe et très engageant. Ça peut être d'autres formes de fécondité spirituelle, mais pas seulement finalement, parce que ça peut être une fécondité avec une solidarité humaine qui aide les hommes, les femmes à vivre et à vivre, à pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. La multiplication, ça peut être aussi le fait de grandir et d'élever les autres. Vous voyez, c'est pas simplement la multiplication en quantité, ça peut être en qualité d'être. Remplir la terre, il y a la dimension d'universalité sur laquelle tu nous ouvrais au début. On n'est pas simplement dans notre petit coin chez nous. Il y a l'idée de... Voilà, ça concerne la terre entière. L'Esquimau est mon frère ou ma sœur. Et puis le verset 2 qui est étrange, mais qui va aussi avec le verset 3 que tu citais, l'animal doit être assujetti à l'homme. Alors, comme je le disais en introduction, cet animal que nous devons assujettir, c'est d'abord l'animal qui est en nous, si vous voulez. C'est une certaine hiérarchisation peut-être des règnes. Je ne sais pas si on peut dire que la pâquerette est en dessous de l'humain, si vous voulez. C'est pas tout à fait vrai quand on lit ce texte, car Dieu fait alliance avec toute créature vivante, et à mon avis la pâquerette est aussi vivante que nous, enfin un peu moins, parce que c'est moins complexe comme bête, mais si je puis dire, mais enfin, faudrait demander à un naturaliste distingué de nous dire ce qu'il en pense. Mais il y a un continuum, si vous voulez, une continuité entre la pâquerette, l'animal, et puis nous. Donc, Voilà, il faut quand même hiérarchiser les choses, j'allais dire, quand même. En nous-mêmes, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que voilà, il faut dominer l'animal qui est en nous, et on le verra plus loin. Ensuite, l'idée de se nourrir, oui. Et il y a l'idée que, si vous voulez, nous ne sommes pas de purs esprits. Voilà. Donc, on ne peut pas vivre en ce monde sans violence. Alors, on peut faire le rêve que nous sommes des anges du ciel. Nous ne sommes pas des anges du ciel. Nous sommes des anges porteurs de la parole de Dieu, sans doute. Mais nous sommes aussi des animaux terrestres. Donc, nous vivons en consommant des ressources, en consommant du vivant. Je ne sais pas... Si on peut vivre en ne mangeant que du minéral, non, il y a des gens, il y a des bêtes qui vivent qu'en mangeant que du minéral, je ne crois pas que ce soit possible. On est forcé de manger du vivant pour vivre, c'est comme ça. Et c'est un peu compliqué, on est obligé de manger des matières organiques pour vivre. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'une certaine violence en ce monde. Voilà, c'est comme ça, il faut assumer le fait comme Dieu l'assume, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe comment. Et ça, je crois qu'il y a quand même là une responsabilité qui nous est donnée ensuite de faire attention. Alors, il y a un passage important, je trouve, à la fin du verset 5. Je redemanderai l'âme, voilà, la vie hein, de l'homme à l'homme qui est son frère. Ça, c'est quand même assez fort, si vous voulez, parce que l'idée que tous les humains sont nos frères, eh bien, ce n'est pas rien, quand même. Ce n'est pas rien du tout. C'est-à-dire que, voilà, à travers cette histoire aussi de Noé et de ses fils, on nous dit que tout, qu'il n'y a qu'une race humaine, finalement, qu'une famille humaine. Et donc, nous sommes tous frères et sœurs. Et ça, ton introduction avec le Notre Père est tout à fait dans cette lignée. C'est-à-dire, voilà, l'alliance avec Dieu est individuelle, entre un homme et son Dieu, mais cette alliance se fonde d'une universalité, c'est-à-dire que ça nous fait reconnaître dans les autres un frère. Voilà. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, je ne crois pas que ce soit une menace que Dieu donne en justifiant le talion et la peine de mort. Au contraire, on nous dit que la vie n'appartient qu'à Dieu, voilà, et que l'homme qui est fait à l'image de Dieu, est donc sacré. Voilà. Et cette vie ne nous appartient absolument pas. Cela dit, je crois qu'il y a là un avertissement. Si vous entrez dans ce jeu de la violence entre frères, c'est quelque part vous-même que vous tuez. Vous engendrez des ferments de violence, et puis même en tuant votre frère, vous tuez aussi quelque chose en vous-même qui est de l'ordre de l'essentiel, qui est de l'ordre de la présence de Dieu en vous-même, finalement.
Et c'est peut-être là que Dieu se révèle déjà un peu comme Père, parce que vous devez vous demander où veulent-ils en venir avec le thème de l'année. Effectivement, Noé est Père, mais Dieu ici, déjà dans la reconnaissance de cette violence et de ce désir qui est dans le cœur de l'homme. Vous savez, chez un enfant, le désir peut être totalitaire. Et il faut que le père incarne la loi et pose des interdits. Et effectivement, dans la reconnaissance prévenante que Dieu opère de cette perversité au cœur de l'homme, mais qui précisément... Qui peut devenir perversité, mais qui est une force qui n'est pas en elle-même porteuse de mort, qui est ce désir. Et précisément, Dieu se fait père en proposant cette alliance avec l'homme, même si le terme de Dieu père ici n'est pas encore là, mais nous ne pouvons pas, nous qui lisons la Bible dans sa continuité, ne pas penser aux futures alliances qui seront scellées dans le mystère de l'incarnation, mais avec Moïse, Dieu révèle la loi, et l'alliance passera par la loi, parce que précisément ce travail de reconnaissance et de confiance dans l'humain va passer par le don de règles. Et déjà ici, avec les rites de la cachéroute, et l'interdit du meurtre, nous avons déjà une première loi. Alors, ce Dieu d'après le déluge, au fond, ce qui nous surprend, c'est qu'il affiche fondamentalement son refus désormais d'intervenir directement dans l'univers. Tout à l'heure, Marc avait raison de dire que Dieu a vu que cette théologie de la rétribution, ou être juste avec le mauvais en le châtiant et en l'éliminant, c'est une logique qui en elle-même en vient à nier la création elle-même et le dynamisme et le jaillissement vital de la création. Donc ici on a un Dieu qui au fond se retire, un Dieu qui par cette alliance nouvelle qui va être perpétuelle dit qu'il n'interviendra plus pour châtier le mauvais. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait, moderne d'une certaine manière, passez-moi le mot, c'est-à-dire un Dieu qui laisse la place à l'autonomie de l'homme et qui lui rappelle que, précisément, l'expérience du déluge a montré ses limites et que la réponse disproportionnée ou bien trop proportionnée à la faute n'est plus la manière dont Dieu souhaite conduire l'histoire, les événements et le monde. Donc le Dieu d'après le déluge affiche d'une certaine manière son refus d'intervenir désormais directement. Et le symbole... le symbole de l'arc peut-être, l'arc que l'on va retrouver, l'arc en ciel, nous montre bien que Dieu n'est pas directement dans l'événement, Dieu n'est pas dans l'orage, Dieu n'est pas dans la foudre, comme pouvaient le croire peut-être les populations du Proche-Orient à l'époque, qui voyaient dans les cataclysmes des interventions de Dieu. Le choix d'un symbole totalement inoffensif et plutôt joyeux comme l'arc-en-ciel est peut-être une sorte de clin d'œil de Dieu pour montrer qu'il n'est pas là où on croyait et que peut-être n'était-il pas non plus dans le déluge.
Moi j'ai l'impression que Dieu il cesse d'intervenir pour punir et pour détruire, mais il ne cesse pas d'intervenir quand même.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il intervient d'une manière positive, et c'est ce que propose Paul dans la lettre aux Romains, c'est de surmonter le mal par le bien finalement. Mais il ne cesse pas pour autant de vouloir intervenir, et il ne va cesser tout au long de la Bible d'intervenir. Quand même, c'est pas. Il se retire pas. Je sais pas.
C'est Pierre Fouettard qui.
C'est voilà, il met son, il décide que le martinet est passé au feu. En fait, c'est ça. Mais cela dit, je crois qu'il y a quand même une image du Dieu Père dans la jonction entre le verset 6 et le verset 7. Dieu fait l'homme à son image, et vous soyez féconds et multipliez-vous. Donc il y a l'idée vraiment là, du Dieu Père. Dieu est source de vie. Dieu vous a enfanté. Dieu vous enfante, comme tu disais. Eh bien, vous de même, finalement, à l'image de Dieu, soyez féconds, multipliez, répandez-vous, multipliez-vous sur la terre. Et puis, il parle, donc il répète cette alliance, alors l'alliance avec toute chair, mais on verrait effectivement, moi je verrais bien une place, oui, pour l'alliance avec la planète. Donc ça, je trouve que c'est assez écolo avant l'heure, c'est-à-dire que voilà, c'est une alliance avec la planète entière, donc on ne peut pas faire n'importe quoi quand même. Il y a là quelque chose de sacré finalement dans la manière dont nous allons traiter notre planète, même les moindres des animaux. Mais en même temps, cette alliance avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, eh bien, c'est une alliance avec, tout l'homme. C'est une alliance avec, en particulier avec tout homme, c'est-à-dire que même si Dieu fait alliance avec les vaches, ça veut dire que même l'être humain le plus stupide, le plus profondément muré dans un coma profond, Dieu continue à faire alliance avec lui, comme il fait alliance avec les pâquerettes, qui ne peuvent pas non plus répondre à sa parole, finalement, ou ne peuvent pas être dans une mobilité, un dynamisme extraordinaire. Donc, je dirais qu'il y a là déjà une promesse pour chacun d'entre nous. Nous sommes dignes, quoi quelle que soit notre performance, même si nous ne servions à rien, au sens de la production, nous sommes quand même dignes d'être en alliance avec Dieu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et Dieu est en alliance, veut faire alliance, fait alliance avec tous les êtres vivants de la terre. Je crois qu'il y a quand même un message qui est particulièrement moderne, d'attention vraiment au vivant, dans la planète comme étant un tout. Voilà. C'est une alliance avec ce tout et avec chacun, finalement. Chacun, un à un, de ces êtres vivants, des animaux. Et puis, je crois qu'il y a aussi le sens où Dieu ne fait pas seulement alliance avec notre foi et notre âme. Voilà. On n'est pas un pur esprit, on le rappelle. Cette histoire de manger de la viande nous le rappelle. Il faut assumer cette violence, dans un sens, la canaliser, la polisser, la domestiquer, certes, mais l'assumer. Dieu ne fait pas alliance qu'avec notre âme, notre la plus supérieure. Il fait alliance avec notre être tout entier, donc avec notre corps aussi, si vous voulez. Et ça, je crois qu'il y a un peu une polémique, j'allais dire, avec d'autres spiritualités, d'autres anthropologies, c'est-à-dire d'autres notions de la personne humaine et de sa dignité. Le corps a aussi, est une bénédiction de Dieu, et Dieu ne fait pas alliance qu'avec le spirituel, il fait alliance avec tout l'homme. Tout l'homme est une bénédiction, y compris dans sa dimension physique. Voilà.
Sur la question de l'intervention de Dieu, bien sûr, hein, c'est quelque chose de très important, et c'est une notion qu'on doit manipuler avec beaucoup de pincettes. Quel est le mode de l'intervention de Dieu dans l'histoire, au milieu des hommes? Comment intervient-il? Effectivement, le déluge était un mode d'intervention assez radical et qui en venait finalement à nier le mouvement créateur qui est en Dieu. Alors, je pense quand même que le Dieu qui apparaît ici, alors il ne cessera d'intervenir, bien sûr, dans son peuple, mais dans la manière dont il veut qu'on reconnaisse ses interventions, il y a une forme peut-être de délicatesse ou de place qu'il laisse à l'homme, peut-être de distance ou de retenue, de pudeur, une distance qu'il laisse à l'homme, qui invite, qui propose, et qui peut-être à travers cette alliance avec l'humain voit dans l'homme, c'est peut-être une projection moderne, mais un collaborateur de sa création, qui voit dans l'homme une sorte de porte-parole de Dieu ou de relais de Dieu au sein de sa création. Donc un Dieu dont l'intervention est plus diffuse, non pas plus ambiguë, mais une intervention peut-être médiatisée, avec des médiations qui sont effectivement l'homme, la femme, et en particulier donc Noé et ses enfants.
Oui, là je crois que c'est tout à fait ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà, Dieu, et peut-être on le voit au premier verset finalement, Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit. Voilà. Et finalement, l'action de Dieu, c'est ça, finalement, maintenant, j'allais dire. Et donc, c'est le Dieu qui crée par sa parole, qui crée l'humain, qui enfante l'humain par une parole et par une bénédiction. Et c'est déjà tout autre chose. Vous savez qu'il y a dans la Bible plusieurs images du Dieu créateur. Ça peut être un Dieu potier, par exemple, qui prend de l'argile et qui pétrit. Mais le Dieu potier, il donne une forme à la terre par la violence et par la force, finalement. Là, l'argile se défend un peu, mais en définitive, c'est quand même plutôt le potier qui a raison à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il voilà, il imprime une force, une forme de force. Alors que par la parole, comme tu dis, voilà, par la parole, par une bénédiction, une alliance, même unilatérale, ce qui est quand même peu efficace, j'allais dire. C'est pas comme ça qu'on dresse des esclaves. Eh bien, on a une action de création qui est quand même extrêmement douce. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que quand on appelle Dieu, Dieu, Elohim en hébreu, C'est normalement le Dieu fort. Elle, c'est le Dieu qui rigole pas, si vous voulez. C'est la force, la puissance de création. Donc, et là, on l'appelle, c'est ce Dieu. C'est pas marqué l'Éternel qui représente un côté beaucoup plus tendre, beaucoup plus féminin, beaucoup plus dans la compassion, le pardon. C'est pas l'Éternel qui bénit Noé, ses fils et leur dit, c'est Dieu. Donc voilà, ce Dieu fort, il choisit maintenant d'agir par la persuasion, par l'invitation, par cherche à convaincre, voilà. Et ça, c'est déjà, oui, un Dieu, je dirais, le Dieu de l'Évangile, c'est-à-dire le Dieu de la bonne nouvelle, voilà, qui commence à se manifester ici. Et pourtant, c'est encore une force de Dieu que cette tendresse et cette parole, cette bénédiction.
Alors, il se trouve qu'un certain nombre de rabbins ont fait le constat que les trois chiffres qui désigne les trois mesures de l'arche, c'est-à-dire du coffre dans lequel, le coffre à trois étages dans lequel Noé et sa famille doivent prendre place, les trois chiffres, donc de la hauteur, de la largeur et de la longueur, en hébreu, les chiffres sont exprimés par des lettres. Et ces trois lettres forment une racine. Tous les mots hébreux ont une racine de trois lettres. Ce sont des mots trilitaires. Et le mot que l'on obtient, dans le bon ordre d'ailleurs, dans l'ordre qui est proposé par la Bible, je suis allé voir, c'est le mot lachon qui veut dire parole. C'est la parole, un peu comme le dabar. C'est un mot qui veut dire parole. Donc, ce qui surnage au-dessus de ce déluge, qui est un baptême, mais ce sont aussi bien sûr les eaux de la mort, les eaux de la perdition, ce qui surnage, c'est la parole. Comme si la réponse, et dans ce cas-là, évidemment, on voit bien que le prix à payer pour une telle révélation, c'est le déluge, et que le déluge est. Et le salut du déluge sont d'une certaine manière une seule et même réalité qui a deux faces. Mais la réalité vivante, la réalité qui produit de la vie, c'est cette parole qui surnage au-dessus des eaux. Comme si finalement le remède ou la solution que Dieu propose pour gérer, pour négocier, pour réguler la violence qui vient de ce désir toujours renaissant dans l'homme et cette toute-puissance qui habite l'homme, comme si la parole, et la parole, c'est la parole aussi de la bérite c'est l'alliance, c'est évidemment un Dieu qui parle, et pour nous chrétiens qui voyons dans le Christ le Verbe incarné, la parole incarnée, je pense que ça donne beaucoup à réfléchir, à méditer, à rêver peut-être que cette arche de la parole, c'est une arche de parole que Dieu propose au monde pour le salut du monde. Et du coup, l'arc en ciel aussi est le symbole même de la communication entre deux partenaires, deux interlocuteurs. Certes, l'alliance est unilatérale, mais l'homme est infiniment respecté par cette alliance parce qu'il est l'objet d'une promesse perpétuelle et universelle.
Oui, alors là, je crois qu'effectivement, c'est intéressant, cette alliance perpétuelle et universelle. C'est-à-dire que c'est une alliance qui est vraiment par grâce. Il y a marqué, voilà, par exemple, au verset 12, c'est le signe de l'alliance que moi, j'établis entre moi et vous. C'est-à-dire, voilà, c'est Dieu qui choisit d'établir cette alliance, tous les êtres vivants qui sont avec vous et pour les générations à toujours. C'est vrai que cette alliance, elle est tellement, bon, c'est le bon vouloir de Dieu, c'est en fait, c'est, du coup, c'est complètement arbitraire et subjectif, quoi. Et on peut se demander, est-ce que, puisque c'est absolument pas basé sur nos mérites, mais complètement à notre bonne gueule, finalement, que Dieu, voilà, a choisi, on peut se dire, mais il peut changer d'avis demain, finalement, parce qu'il n'y a rien de mérité là-dedans, donc il peut très bien, tout d'un coup, ça peut lui prendre comme ça lui est venu. Il pourrait nous abandonner. Non, il y a une fidélité qui est annoncée aussi. C'est pour vous maintenant, pour tous les êtres vivants, même ceux qui sont vraiment bien inférieurs à vous. Mais ça, on retrouve Jésus dire ça avec les moineaux là, qui méritent. Mais aussi les générations futures. Là aussi, je trouve qu'au niveau éthique, il y a quelque chose d'intéressant. Notre prochain, c'est pas simplement celui qui est à côté. C'est voilà, le fait même que Dieu soit le Père de tous, fait que tous les humains vivant en ce monde sont mon frère, ma sœur, donc sont mon prochain dans un sens, mais même celui qui vivra dans 1000 ans, si vous voulez, c'est mon prochain. Et ça, je trouve que cette vision-là est quand même importante, parce que d'abord, ça annonce la fidélité de Dieu, on peut donc compter dessus, ça ne va pas changer demain, il nous annonce une promesse, c'est vrai, subjective, il nous aime et il s'occupe de nous, mais c'est dans la durée et dans la fidélité. Et cet arc-en-ciel, bon, c'est vrai que c'est un beau symbole, je pense que toutes les civilisations du monde ont été épatées par cette manifestation naturelle qui est quand même assez spectaculaire et magnifique. C'est vrai que là, vous imaginez bien, les exégètes, les prédicateurs jouent là-dessus pour dire, voilà, tous les sens de cet arc-en-ciel, le pont entre le ciel et la terre, comme l'homme finalement, qui est en tension entre ces deux réalités. Aussi le fait que ce soit tissé de lumière et d'eau finalement, c'est-à-dire c'est des éléments qui normalement ne vont pas ensemble, mais qui donnent ça, comme finalement Dieu et la terre. Normalement, voilà, le terrestre et le céleste, c'est des choses qu'il faut séparer, qu'on ne confond pas. Et bien l'homme est tissé finalement à la fois de la terre et du spirituel, comme l'arc-en-ciel est tissé d'eau et de lumière finalement. Et puis à travers toutes ces couleurs différentes qui sont magnifiques, ça invite aussi au respect de la diversité dans cette humanité qui est une. Mais ça appelle aussi, je crois, au respect de notre nature complexe, en fait, qui comprend des dimensions multiples. Et c'est le faisceau de ces dimensions différentes qui nous habitent, qui fait la qualité, la beauté de la vie humaine. Et c'est le faisceau de cette humanité plurielle dans les cultures, dans les façons d'être, dans les sexes aussi, qui fait la beauté de l'humanité et qui fait cet arc finalement entre le ciel et la terre.
On a vu aussi dans le symbole de l'arc, l'arc militaire, l'arc de l'archer inversé. Puisqu'effectivement l'arc-en-ciel est tendu vers le ciel. Donc c'est une interprétation assez ancienne, puisque on trouvait dans les religions de l'Orient ancien, dans les religions mésopotamiennes, des représentations de Dieu qui sont justement armés d'un arc. Et le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées, El Shaddai, a pu être représenté aussi quelquefois avec un arc. Alors ici, évidemment, l'arc-en-ciel qui n'est plus pointé vers le sol, mais qui est retourné vers le ciel, effectivement, peut être aussi, comme la colombe au rameau d'olivier, un symbole de paix et un symbole de pacification entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. Alors, peut-être peut-on passer maintenant à l'anecdote qui a tant fait couler d'encre et qui a été passible de tant d'interprétations, de dévoiements, de lectures idéologiques. C'est celle de l'ivresse de Noé et de la nudité de Noé. Sem, Cam et Japhet étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cam, c'est le père de Canaan. Alors, là, il y aurait toute une étude à faire sur le lien entre Cam, qui est aussi un des anciens noms de l'Égypte, et donc de façon un peu métonymique, c'est-à-dire par contiguïté, Cam a fini par désigner toute l'Afrique, et Canaan, qui est évidemment la terre offerte au peuple d'Israël libéré, mais déjà antérieurement à Abraham. Donc Canaan, ça désigne à la fois le fils de Cam, ça désigne à la fois un peuple réduit en esclavage, parce qu'il y a une racine hébraïque qui peut évoquer ce sens de servitude, de servilité. C'est aussi les marchands, et donc effectivement Canaan désigne cette terre où il y avait des cités-états, qui est la Syro-Palestine de l'Antiquité et encore de nos jours. Donc évidemment on voit bien toutes les lectures que l'on peut faire dans un asservissement de Canaan. On peut évidemment y voir la trace d'une légitimation du sionisme, ou ce que vous pouvez imaginer, ou bien de l'asservissement des Africains, la traite la traite transatlantique,
l'apartheid,
l'apartheid, effectivement, en Afrique du Sud, ce texte a été revendiqué il y a encore 30 ans par les défenseurs de l'apartheid. Alors, Cam, Canaan, il y a aussi bien sûr une ressemblance phonétique. Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour voir ce qu'il faut entendre dans cette filiation de Canaan et de Cam. En tout cas, il se trouve que Cam, le troisième fils, voit la nudité de son père qui s'est enivré. La vigne est bonne, la vigne produit des fruits savoureux, produit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et ce vin, comme je le disais au début de cette séance, est promis évidemment à cette promotion que le Christ lui donne. Mais ici, l'effet qui est produit est celui de l'alourdissement, de la torpeur, de l'engourdissement, un peu comme Holoferne. Vous vous souvenez peut-être dans le livre de Judith, Holoferne aussi est ivre de vin, il se roule dans son vin. Et il y a d'autres textes de la Bible qui montrent précisément, y compris chez saint Paul, les dangers d'un usage intempérant du vin. Alors la nudité, je pense que Marc va en dire quelques mots. Évidemment, voir la nudité de son père, la nudité, c'est la fragilité. L'homme et la femme se savent nus au moment de ce que l'on appelle la chute, au moment où ils ont consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils se savent nus, c'est-à-dire qu'ils se savent fragiles, exposables, faillibles, vulnérables, exposés aux blessures. Et voir la nudité, c'est voir la faiblesse de son père. C'est donc d'une certaine manière renverser l'ordre des choses. Plus fondamentalement, la nudité, c'est aussi dans le Lévitique, et encore une fois, par contiguïté, il y a un lien avec l'inceste. Le Lévitique condamne à plusieurs reprises l'inceste dans la loi, dans le code de sainteté, en montrant le lien entre la nudité. Tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père ou de l'une des femmes de ton père, etc. Voir la nudité consiste presque à entrer dans une logique incestueuse. Et alors, encore plus fondamentalement, et je pense que Marc connaît mieux cela que moi, mais la nudité, c'est l'accès à l'origine. En fait, je lisais tout à l'heure un roman de Pascal Quignard qui est obsédé par cette thématique de l'origine, l'origine interdite, l'origine qui se perd dans la nuit sexuelle, comme il dit, ce pôle nocturne qui est antérieur, qui est en amont de nos mémoires. Et voir la nudité de son père, c'est accéder à cette origine qui est l'objet d'un interdit fondamental. On ne doit pas accéder à cette origine. Et du coup, cette transgression qui peut-être peut nous paraître extrêmement minime touche à quelque chose de l'ordre du tabou fondamental pour un lecteur de la Bible.
Alors c'est vrai que bon, ça reste difficile à dire, parce qu'effectivement c'est sans doute un euphémisme, parce qu'au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Donc c'est pas simplement le fait de voir la nudité, il s'agit donc forcément là d'un euphémisme pour quelque chose que Cham avait fait finalement. Alors ensuite, bon, effectivement, les commentateurs débattent de savoir, il y en a qui disent que peut-être il l'aurait fait eunuque pour pas qu'il y ait un quatrième fils nié la capacité d'engendrement de son père à la suite de soi-même. Ou bien, effectivement, ce que tu disais, c'est qu'il aurait fait de la sodomie avec son père, ce qui peut effectivement représenter quelque chose qui est absolument invraisemblable, abracadabrant. Mais si vous voulez, je crois que de toute façon, qu'importe, parce que ce qui est important, je pense, c'est de dire là, voilà, il y a quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors quoi ? C'est sans doute à connotation quand même sexuelle, bien sûr, Bon, il y a des gens qui disent que ces trois fils de Noé, ça représente trois dimensions de notre être, finalement. C'est finalement l'exégèse qu'en fait l'apôtre Pierre quand il relie le déluge et cette traversée comme étant la figure du baptême, c'est-à-dire que Noé, ses fils et puis leurs femmes forment une allégorie de chacun d'entre nous, finalement, qui traversons cette conversion et puis qui reprenons vie. Donc, dans cette, bon, les rabbins le disent aussi, hein, et puis bien sûr, les pères de l'Église qui suivent de près les rabbins, Sem, alors on connaît ce mot, ça veut dire le nom, hein, c'est, vous savez l'importance du nom en hébreu, Shem, c'est, voilà, même les Hébreux, quand ils arrivent devant le tétragramme, Yahvé, souvent ils disent Hachem, le nom. Donc Sem, c'est le nom, et alors ça représenterait pour l'homme la capacité à nommer, c'était important aussi dans Genèse 1, capacité à réfléchir, capacité d'intelligence, capacité de donner du sens, voilà. Ram, ça veut dire le chaud, le bouillant, et ça représenterait la sensualité. Effectivement, la sensualité qui peut être débridée. Mais cette sensualité, elle a plutôt pour vocation, vous voyez dans les bénédictions qui sont données à la fin, finalement, hein, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, ça c'est au verset 26, vous voyez, que Canaan soit son esclave, son serviteur. Donc, finalement, la sensualité, elle doit être au service du sens. À ce moment-là, ça va, vous comprenez ? À ce moment-là, ça va bien. Si la sensualité devient débridée à faire n'importe quoi, ça pose un problème quand même en général. C'est quand même pas facile. Et quelque part, ça pose des problèmes avec vraiment notre profonde origine, dans un sens. Et ça, c'est quand même assez fâcheux. Donc Sem, ça représenterait notre capacité à nommer, l'intelligence, le sens. Ham, Sham, la sensualité. Encore une fois, c'est pas mauvais en soi. C'est bon, nous sommes un être, un animal doué de sens et de sensualité. C'est tout à fait positif. Surtout quand c'est gouverné par le sens, oui. Et Japhet, Yafat, c'est l'ouverture. Alors c'est plus ambigu, ça peut être l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture vers Dieu, enfin c'est cette capacité d'ouverture. Alors finalement, dans la bénédiction à la fin, Japhet, il doit étendre les possessions de Japhet au verset 27, c'est ça, non ? Comment c'est marqué en traduction ?
C'est un terme qui peut vouloir dire mettre au large, séduire, mettre au large au sens d'épanouir, c'est-à-dire Japhet sera mis au large et il habitera sous les tentes de Sem. Mmh.
Alors, oui, donc cette ouverture, ça met, cette ouverture, il y a une mise au large, etc. Mais il faut que ça habite quand même sous une tente. Donc il y a encore cette mobilité, mais sous la tente de Shem, de Sem, c'est-à-dire la tente qui est elle-même habitée par Dieu, dans un sens, vous voyez. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Alors finalement, la bénédiction de Sem, c'est de bénir l'Éternel. C'est quand même rigolo, non? Vous voyez ce que je veux dire? Sa bénédiction, c'est de bénir, c'est que Dieu soit béni à travers lui. Ça, on le retrouve hein, dans Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, brillez bien, et à ce moment-là, les gens autour de vous vont rendre gloire à Dieu. Finalement, c'est la même chose. C'est ça qui permet donc ensuite à cette dimension d'ouverture qui est indispensable. On n'est pas que dans la fermeture, si vous voulez, enfermé. On n'est pas que Shem, à être de purs esprits. S'il y avait que Shem, on est dans sans arrêt dans les hautes sphères de la théologie, du sens et du machin. Mais ça fait pas vivre, si vous voulez. C'est pas la vie. On est fait pour vivre une vie incarnée. C'est ce qui se dit particulièrement bien en Jésus-Christ. C'est ce que rappelle par exemple la première lettre de Jean en disant « Quiconque dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère, je vous l'ai désolé, il y a un vrai problème quand même. C'est peut-être il se ment à lui-même en pensant aimer Dieu s'il n'aime pas son frère. » Donc je pense qu'il y a ça, si vous voulez, il y a Shem. Il doit avoir quand même le corps à son service, Et à ce moment-là, le corps, au lieu d'être quelque chose qui tue le père, dans un sens, ou qui le châtre, ou qui le profane, qui l'abîme, au contraire, le corps devient quelque chose qui est source de bénédiction. Voilà. Et puis l'ouverture aussi est indispensable. Cette ouverture qui permet à Abraham de se mettre en route, qui permet à quiconque d'aller vers son frère. Et donc je crois que là, on nous dit finalement trois dimensions de l'homme qui doivent être l'être humain complet, accompli. Alors c'est vrai que si on essaye d'identifier en disant Sem, c'est ces gens-là, c'est les Sémites. Ça a été longtemps fait, si vous voulez. Alors voilà, Sem, c'est les Sémites, c'est facile. D'ailleurs, les descendants, quand on regarde les peuples qui descendent de Sem, c'est effectivement les peuples du Moyen-Orient, etc. Ham, c'est le chaud, donc ils sont tout brûlés, donc c'est les Africains, voilà, ils vont être les serviteurs des autres, ça tombe bien, j'avais besoin d'un esclave, les voilà. Et puis, Yafet, c'est ceux qui sont un peu loin, c'est les Européens, tout ça. Ah, donc les chrétiens se sont dépêchés de dire, c'est normal, hein. Yafet, il va gagner la tente de Sem, donc en fait c'est nous qui prenons la tente des juifs. Hein. Maintenant ils ont perdu l'alliance, bim, c'est nous. Donc vous voyez, c'est facile de dire ça, mais chaque fois qu'on identifie, le juste c'est monsieur machin et machin truc, c'est les justes. Voilà. Et puis les pécheurs, c'est Ben Laden, tout ça, c'est le camp du mal. Alors c'est facile. Alors il y a du mal bien sûr en Ben Laden, je suis le premier à le dire, mais cela dit... faut nuancer les choses, c'est souvent plus complexe que ça, et donc faut pas y faire ces identifications. Il y a du Sem, du Cham et du Japhet en chacun de nous, et heureusement finalement, c'est ça cette bénédiction. Il peut y avoir des fois un déséquilibre, trop de Sem dans notre existence, trop de Cham ou trop de Japhet. Il y a des gens, des églises même, hein, qui sont dans une ouverture totale, alors... tout se vaut, on est tous frères, et puis finalement, le bien et le mal, mais tout est relatif, et c'est bien la même chose, la lumière et les ténèbres, donc je veux dire, l'ouverture, c'est bien, oui, ce souffle de machin, mais voilà, c'est fou.
On va peut-être conclure.
On va conclure.
Parce qu'effectivement, ce chapitre 9 s'ouvre sur un chapitre 10, qui est peut-être un peu fastidieux, puisqu'il s'agit de listes de noms. Comme les rédacteurs dits sacerdotaux l'ont aimé. Vous savez probablement, si vous avez déjà suivi les séances du groupe biblique, qu'effectivement le processus de rédaction de l'Ancien Testament est très complexe, qu'il y a plusieurs couches rédactionnelles, et on voit souvent dans le chapitre 10 un élément qui viendrait de caste sacerdotale au moment du retour après l'exil, c'est-à-dire au 5e siècle, la restauration d'Israël. Et donc, effectivement, on reconnaît souvent l'écriture dite sacerdotale à ce goût pour les listes ou les généalogies, ce qu'on appelle les tolédotes. Enfin, on retrouvera ça encore dans les évangiles. Vous savez que Luc et Matthieu donnent tous les deux une généalogie de Jésus, qui est d'ailleurs un peu contradictoire. Donc après Noé, nous voyons au fond une sorte de recréation, un nouveau chemin qui est donné à l'humanité, celui d'une maîtrise exercée avec douceur et bienveillance sur la création. Donc il ne s'agit pas d'une restauration de l'ancien régime d'avant le déluge, antédiluvien, mais il s'agit bien d'un nouveau chemin proposé à l'humanité. Et de même que Adam et Ève avaient trois fils, et nous voyons ici Noé et sa femme qui ont aussi trois fils et trois chemins qui sont évidemment les nôtres et sur lesquels il ne faut pas plaquer de schéma idéologique ou de légitimation de telle ou telle culture, de telle ou telle langue, de telle ou telle civilisation.